Franck Courtès m'attendait donc sur le quai de la gare de Château-Thierry, mais pour arriver là où il vit, nous restait encore une bonne demi-heure de trajet en voiture.
De toute façon, je peux quasiment plus vivre à Paris, pour plein de raisons, financières et pour le travail, quoi. J'arrive pas à travailler, le studio est en rez-de-chaussée, il y a beaucoup de bruit, quoi. C'est un studio qu'on me prête, donc c'est pratique, parce qu'évidemment, j'ai pas de loyer, mais la vie est trop chère, d'une part, et puis il y a trop de bruit, tout simplement. Ici, c'est vraiment très, très calme. Trop calme, parfois. Mais je peux travailler et dormir. Récupérer.
Avant de publier son premier livre il y a 10 ans, Franck Courtès était un photographe reconnu qui gagnait très bien sa vie. Et le dégoût de la photo lui est venu. Il a vu ses portraits d'artistes s'apparenter de plus en plus à des photos de mode, les pages culture des magazines glisser du journalisme vers la public communication, jusqu'au jour où l'un des journaux pour lesquels il bossait l'a escroqué. Et il a définitivement arrêté la photo. À pied d'œuvre est son 6e livre. C'est un roman politique sans point levé, mais plutôt avec des tendinites. Tendinites et dos cassés par les petits boulots qu'il accomplit. En tout cas, ne viens pas te plaindre. Il nous faudrait plutôt un jeune. Ce sont les titres des premiers chapitres de ce roman au ton net qui ne se refuse ni l'humour ni l'ironie. Franck Courtès tient le volant, moi le micro, et nous roulons vers la maison où il écrit.
C'est une maison que j'ai depuis très longtemps, en fait. Mais qui n'est pas confortable, malheureusement. L'hiver, c'est très dur. Il y a juste un poêle et donc le reste de la maison est complètement gelé. Et puis, dans la chambre, c'est 2 degrés, quoi.
La vache.
C'est très sain. Non, mais il y a des moments, c'est vraiment trop dur. Ouais.
Alors, vous faites comment ?
Je mets des mitaines. J'ai reçu en cadeau des radiateurs et électriques, malheureusement. Comme mes finances n'ont pas changé, je ne peux pas les allumer. Donc c'est une vie un petit peu rude, mais bon, la maison est jolie et ça compense.
Vos finances n'ont pas changé par rapport à ce que vous racontez dans le livre, à savoir être obligé de vendre ses bras, ses muscles, son dos,
ouais,
pour être manœuvre et faire tous les travaux possibles chez les gens, en fait.
Ouais, alors en ce moment, j'en fais plus de petits travaux parce que justement, je suis trop blessé que mon médecin ne veut plus. J'ai encore pas mal de kiné à faire. Donc là, je ralentis. J'ai la chance d'avoir ému ma mère là, récemment, qui m'aide à manger. Donc c'est pas très glorieux, mais au moins ça me permet de continuer de travailler. Donc voilà, je me débrouille comme ça pour le moment, avec le RSA.
Il y a une phrase dans le livre où vous citez votre sœur qui parle de la vraie pauvreté.
Alors c'est ma sœur, mais c'est beaucoup de monde aussi. Hein. C'est mon ex-famille, c'est... On se plaint pas, il faut pas se plaindre, quoi. Je trouve qu'on oppose toujours une chose à la même chose auquel on ajoute le mot vrai. Au lieu de simplement opposer, par exemple, la pauvreté, on dit non, mais il y a une vraie pauvreté ailleurs, bien plus terrible, exotique, évidemment. Et donc, t'as pas le droit de te plaindre. Alors qu'en fait, il faudrait juste opposer la pauvreté à la richesse des gens qui vivent à côté de moi, quoi. Et encore, moi, je ne le fais pas de toute façon, je ne l'oppose pas. Mais oui, on a tendance à ne pas vouloir voir. On est complètement dans le déni autour de moi. Et puis, au début, ma sœur, effectivement. Mais maintenant, elle a changé. Elle a lu le livre et a complètement changé d'opinion. Ce qu'elle prenait pour peut-être... Enfin, elle et d'autres prenaient pour un caprice. A vu à quel point c'était vital pour moi de continuer à écrire à la place de la photo, puisque je ne pouvais plus faire de photos. Il fallait que je continue à, j'aime pas le mot, mais créer, raconter des histoires. Voilà.
Vous dites, c'est fou comme on est dans le déni, mais dans le livre, vous racontez aussi à quel point vous essayez de donner le change pour que cette pauvreté, elle se voit pas.
En fait, je l'ai dit un petit peu, mais j'ai pas dit jusqu'à quel point, j'ai pas dit ce que je faisais exactement, quoi. Parce que ça, enfin, de toute façon, on m'aurait pas cru. Avec l'âge que j'ai, quand j'ai commencé, et aucune qualification, je me suis retrouvé à faire ces petits boulots. Mais je ne pensais pas que j'allais me retrouver sur cette plateforme dont je parle et dont je dis pas le vrai nom, pour des raisons évidentes, légales. Quoi. Au début, c'était vraiment dans un esprit de liberté, c'est-à-dire de pouvoir faire des petites missions, gagner un peu d'argent pour manger, je ne réclamais rien de plus. Tout ce que je voulais, c'était écrire, finir mon livre. Et à chaque fois, il y a un nouveau livre. Donc, je me fais complètement entraîner. Je ne vois pas comment je pourrais arrêter maintenant. Et puis, en fait, j'ai découvert un milieu extrêmement sauvage, d'une grande violence, d'un grand cynisme. J'ai rencontré des gens qui vivaient que de ça et c'est une catastrophe. À la moindre blessure, ils dégagent du jeu et ils sont dans une mouise pas possible, quoi.
Mais d'ailleurs, vous dites que les patrons, ceux qui dirigent ces plateformes, finalement, ne se salissent pas les mains à fréquenter leurs employés. Comme quand on a affaire dans notre quotidien à des répondeurs, en fait.
C'est un
truc complètement impersonnel.
Mais tout le système fonctionne sur l'impersonnalisation. Et c'est en ça que c'est cruel. Tout est complètement géré par un algorithme qui a été créé par probablement des trentenaires assez intelligents qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens ? Il y a 10 millions de pauvres ou de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est quand même dommage que ces gens-là ne puissent pas en tirer un peu d'argent. » Donc ils ont inventé ces systèmes de récupération des déchets humains, en fait. En fait, ils vendent l'accès au travail. Donc ils ne nous exploitent plus, on ne peut pas parler de patron, on ne met pas en œuvre une de leurs idées, comme un patron traditionnel qui a une idée, qui montre une entreprise et qui voilà, embauche des employés qui vont fabriquer son idée. Non, là, c'est vraiment l'accès au travail qui est vendu et sur lequel ils font une marge. Sauf que nous, on n'a personne contre qui se retourner. On ne connaît pas ces gens qui dirigent la plateforme, ce sont des prénoms. Ils nous appellent par nos prénoms aussi. Les clients chez qui on fait des interventions, ce sont des prénoms. Donc en fait, personne ne se connaît. Si on mettait nos noms de famille, si on nous appelait par nos noms de famille, je pense que plein de gens commenceraient à se dire « Mais ce monsieur-là, cette dame, il y a le Sordou. » On ne la considérerait pas comme un corps alloué, quoi. Mais il y a une déshumanisation assez énorme, quoi. Alors les clients sont en général très gentils. Ça se manifeste par des étoiles sur son profil, hein, qui sont très très importantes, qui sont un petit peu l'équivalent d'un mélange entre la vie du contremaître d'antan et la pointeuse, qui, si on arrive en retard, si on fait pas bien le travail, la pointeuse sanctionnait les ouvriers un peu. Mais là, ce sont des notes données par les clients. Et ça remonte pas à une direction, ça remonte pas à quelqu'un d'humain. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Oui, d'accord, mais là, l'employé, en ce moment, il a des problèmes, sa femme, je sais pas, n'importe quoi. » Un truc humain. Là, c'est un algorithme qui calcule le nombre d'étoiles et qui vous sanctionne en fonction du peu d'étoiles. Si vous avez très peu d'étoiles, on vous offre plus les travaux les plus rémunérateurs et les moins fatigants, les plus intéressants, tout simplement.
À pied d'œuvre, de Franck Courtès, extrait. Il m'est impossible d'ignorer ma pauvreté même quand je suis seule. À Paris, elle saute aux yeux à chaque coin de rue. Difficile de détourner le regard de l'étalage des fortunes dans les journaux, dans les publicités, dans les magasins, à la télévision. On ne vous laisse jamais en paix sur la question des envies. Vous pouvez bien être philosophe, rêveur, heureux en amour, économe. Toujours, on vous fait miroiter un voyage en avion, un vêtement à la mode, un spectacle à aller voir.
Il y a une chose que j'aime bien faire à Paris, c'est aller dans les magasins, les boutiques, depuis que j'ai plus d'argent. Je vais chez Dior, je vais chez les meilleurs couturiers et j'essaye des costumes, des blousons. Et rien que de les avoir essayés, c'est comme si j'avais vécu quelque chose.
Parce qu'il n'est pas question de les acheter.
Ah non, hors de question, ni même de les voler. Mais d'avoir endossé quelque chose, de m'être vu bien habillé, comme avant. Ça vient de mon grand-père. Je pense qu'il était exactement pareil. Il créait des bijoux et il dépensait tout. Donc, il n'avait jamais d'argent. Il habitait dans le 20e, dans un petit deux pièces. Et tous les matins, il allait au Café de la Paix prendre le petit déjeuner avec un monocle et une canne. L'escroc.
Vous dites, j'aime bien aller dans les magasins chics pour m'habiller comme avant. Mais là, vous êtes bien habillé.
Parce que vous êtes là. Non, mais... plus chic encore. Là, c'est de la fripe. Cela dit, j'adore la fripe, donc... On arrive.
Il devait être 11h du matin. On avait 3-4 heures devant nous, avant que je ne reprenne le train, jusqu'à 10h, totémique et chez Franck Courtès, écrivain.
Alors, le plus important... Osso buco.
Trop bien.
Tu fais une purée maison, c'est pas très italien, ça, en revanche.
Non, ça...
Pas grave.
C'est validé.
Je vous la vends pas la maison, hein, rassurez. Je sais pas pourquoi je fais. Alors voici la cuisine. Hiver, donc, c'est ce poêle-là. Et ça chauffe cette partie-là. En fait, j'ai installé ça, c'est génial. Je le conseille à tous les gens qui entrent dans... Ça coupe le...
Ça s'appelle un rideau.
Non, mais les gens n'y pensent pas. Et en fait, ici, il fait glacial. Et là, tout l'hiver, on a 23 degrés, quoi. Enfin, j'ai 23 degrés. C'est con, hein. Je passe devant.
Ouais.
Là, c'est la chambre des enfants, mais bon, j'y vais plus, comme vous pouvez le voir. C'est quand même un gros bazar. J'ai jamais eu le cœur d'enlever l'arc.
L'arc jouet ?
Ouais, de mon fils. Ouais. Là, c'est mon bureau. Mais là, je suis bien. Pour travailler, c'est formidable, quoi.
Pourquoi il y a des bouchons d'oreilles à côté de l'ordinateur ?
Ici, enfin, le bruit de la campagne, c'est pas que le coq, c'est aussi beaucoup de motoculteurs, de trucs qui... des moteurs, quoi. Et donc, voilà, je mets les bouchons d'oreilles. Comme ça, je m'isole totalement face au mur.
Face à un portrait très Raymond Carver.
Oui. Mon écrivain préféré.
Mais en fait, vous me faites visiter, et vous, dans À pied d'œuvre, vous rentrez aussi en effectuant des travaux de bricolage, pour débarrasser des trucs. Vous entrez dans la plus grande intimité, en fait, des gens.
Oui.
Et en plus, comme vous venez faire des travaux, ils font pas d'efforts.
Oui, ça m'avait beaucoup marqué, l'effet, parce que on fait beaucoup de travaux chez les femmes. C'est quand même essentiellement un monde féminin, les clients, de tous les âges, en fait. Comme si les maris, les frères, les cousins, les papas avaient disparu complètement du monde, quoi. Donc j'arrive et je découvre l'intimité de femmes avec quelque chose d'extrêmement touchant, parfois érotique, parfois presque un mépris pour ma personne aussi. Quand on me demande de nettoyer ou d'installer une étagère dans une salle de bain et que... il y a les rognures d'ongles qui n'ont pas été enlevées. Je pense que ça n'arriverait pas avec un amant, avec un date, quoi.
Et encore moins avec un photographe.
Et encore moins avec un photographe, puisque moi, j'avais toujours cette impression un peu désagréable quand j'allais chez les gens. Je faisais quasiment le même métier que vous, hein. J'allais à la campagne, parfois, voir des maisons d'écrivains et faire des univers. Et je découvrais que tout avait été rangé. Donc là, je me suis efforcé de ne rien ranger.
Pourtant, c'est rangé, hein.
Oui, c'est parce que j'ai une manie, c'est pour travailler, il faut que ça soit propre. Je peux pas travailler si le ménage est pas fait, quoi.
Nettoyer l'établi avant de se mettre au boulot.
Ouais.
Que le chantier soit nickel.
Exactement. Et comme je suis devenu un homme de ménage, j'assure, je le fais bien.
On a vu la chambre de vos enfants. Il est question de vos enfants dans le livre aussi, dans À pied d'œuvre. Et vous avez déjà parlé de la paternité. Dans votre premier roman, oui. Qui s'intitulait « Toute ressemblance avec le père ».
Bravo.
Ce que raconte À pied d'œuvre aussi, c'est que cette nécessité d'écrire, qui est incontournable, elle rompt les liens avec les plus proches, en fait.
Elle les transforme, oui. Alors, les plus proches qui sont les plus éloignés aussi, puisque mes enfants sont partis au Canada. Et ce que j'avais pas vu venir, c'est que eux au Canada et moi en France, j'aurais absolument plus les moyens de venir les voir. Et ça a été une découverte terrible, quoi. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. J'attends qu'ils viennent me voir. Mais bon, ils sont partis il y a 12 ans. Je les ai vus peut-être deux ou trois fois, quoi. C'est terrible, terrible. Alors, heureusement, on se parle au téléphone, mais avec des vies qui sont totalement différentes maintenant. Mon fils travaille dans l'entreprise... et dans le business, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'il a... Je crois que c'est le seul, pour le moment, qui me lit, alors que c'est pas un lecteur.
Alors, vous vous voyez peu, mais comme vous le disiez, vous vous parlez, et vous écrivez sur ce moment, sur sa voix qui change parce qu'il vous a lu.
En fait, à un moment, il est au courant. Il sait que je fais des petits boulots, et il comprend. Il comprend enfin que c'est une recherche de liberté, mais il voit que c'est une galère, quoi. Et les premières payes qu'il reçoit, qui sont un peu conséquentes, quoi, le premier réflexe qu'il a, c'est de me dire « Mais tu sais que je peux t'envoyer de l'argent, je peux t'aider. » Alors qu'il a 20 ans, hein. Et là, ça m'a fait un choc. J'ai pas aimé du tout ce moment. Alors, j'ai aimé qu'il ait ce réflexe. Je trouve que c'est un homme extraordinaire. Mais moi, ça a été une grosse douleur, quoi.
Vous racontez, vous, que finalement, ce déclassement que vous avez vécu, vous n'y étiez absolument pas préparé. Vous avez cette phrase où vous dites « Vous avez été élevé dans la défiance de ce déclassement. »
Presque tous les enfants des classes moyennes, on les menace de s'ils ne réussissent pas à l'école, on les menace d'une forme de déclassement en réalité. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais quand je me suis retrouvé moi-même déclassé, oui, je me suis rappelé quand même qu'on nous disait « mais si tu ne travailles pas à l'école, tu vas te retrouver comme caissière au Monoprix ou... ». Alors qu'aujourd'hui, caissière au Monoprix, même si c'est très dur, c'est un métier, je me dis, au moins, ils gagnent beaucoup plus que les gens que j'ai vus travailler pour très peu. Oui, moi, dans mon milieu social, les smicards, c'était des pauvres. Aujourd'hui, ce que je vois avec les nouveaux précaires, les nouveaux pauvres, c'est que les smicards sont des gens qui ont au moins ça, quoi. Là, j'ai vu des gens qui n'avaient vraiment plus rien, quoi. C'est terrible. En fait, la prochaine étape, c'est la rue.
Mais ce que vous dites, vous aussi, c'est que vous ressemblez presque trop aux gens que vous servez.
Oui. Oui, je me suis rendu compte, parce que j'avais eu une idée un peu fumeuse pendant les fêtes de Noël, de faire le porteur. Parce que je voyais les gens sortir des grands magasins au centre de Paris avec des tas de colis, des écrans plats, des machins comme ça. Et je me dis, tiens, si je proposais mon service pour les aider à porter leur bagage jusqu'à la voiture ou jusqu'au métro ou je ne sais où. En fait, comme c'était l'hiver, j'étais habillé et ça, on voyait pas que j'avais l'air chic. J'avais un manteau parce que j'ai gardé tous mes vêtements. Enfin, j'ai gardé le maximum de vêtements de marque. J'ai vendu beaucoup d'autres choses, mais ça, donc je peux encore refaire illusion. Et donc je m'étais pointé, j'avais la chemise blanche, le petit manteau comme il faut, à chevrons gris. Et donc j'ai commencé à vouloir prendre les bagages d'une dame qui était ultra chargée. Donc, au moment où j'ai voulu lui proposer de l'aider pour 5 euros, en fait, parce que moi, j'étais persuadé que j'allais en faire 15 dans la journée, quoi. Et là, elle me dit, oh, mais c'est vraiment très, très gentil. Les gentlemen, on n'en voit plus beaucoup. Et là, j'ai pas pu lui dire que non, en fait, j'étais pas du tout un gentleman. Je faisais ça pour l'argent. Oui, je ressemblais beaucoup aux gens. Il y avait des gens qui comprenaient pas aussi quand j'arrivais chez eux. Ils me regardaient et ils avaient un petit temps d'arrêt en se disant, c'est pas l'ouvrier. Je correspondais pas. Et je pense que c'est pour ça que tous ces nouveaux pauvres, personne ne les voit. Parce qu'en fait, ils ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait des pauvres. Quoi.
C'est quoi l'idée qu'on se fait des pauvres ?
C'est des gens dans la rue, sales, c'est des gens avec un mauvais goût. Or, moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de cadres qui ont fait des burn-out et qui sont obligés de faire des petits boulots. J'ai vu des jeunes Africains qu'on n'imagine plus sur des podiums de mode, plutôt que sur des estrades à se vendre aux enchères pour faire des petits travaux, des mecs très beaux, avec du style. Oui, on est invisible, quoi.
Dans À pied d'œuvre, Franck Courtès fait le récit de plusieurs rencontres entre le personnage principal et ceux qui l'emploient pour des petits travaux chez eux. Je vous lis un nouvel extrait. Le client m'interroge et s'étonne quand je lui dis que je suis écrivain. Mon métier, c'est écrire. L'outil y est puissant, la langue française, les instruments raffinés, les mots. L'expression de son visage change, son ton aussi. Il aime ça, la littérature. Pour un peu, il me sortirait l'apéritif et les olives. Il veut me prouver, là, tout de suite, sa culture, avec une chouette liste de lectures. Céline, Proust, Balzac, qu'il faut absolument relire. Et Houellebecq à la fin, comme s'il annonçait les stations de métro d'Ulnigne. Houellebecq et son terminus. Suite de la rencontre avec Franck Courtès dans Totémique. La façon dont vous racontez, jamais on est dans le misérabilisme. À la fois, c'est pas du tout un livre clinique, et en même temps, vous avez trouvé une distance. Comment vous l'avez trouvé, ça ?
La photo m'a appris aussi à trouver la bonne distance. Les portraits, 90% du travail, c'est une distance avec la personne, quoi. Et avant d'être un manœuvre, je suis un écrivain, tout simplement. Alors, c'est-à-dire, par exemple, il n'était pas question d'employer des mots comme le mot esclavage. Je trouve que c'est trop fort. Ça oblige le lecteur à accepter que c'est un esclavage. Non, je veux décrire, mais je ne veux pas le dire moi-même. Je suggère, quoi. C'est tout un travail d'amener les gens à ressentir et à se faire une conclusion par eux-mêmes. y compris une conclusion politique, une opinion politique sur le sujet. Jamais je pars d'un point de vue, je ne parle pas d'un point de vue politique.
Mais c'est ça qui est fort, c'est que du coup, vous êtes audible. C'est-à-dire que comme vous ne parlez pas point levé en étant une sorte de militant, c'est pas du tout un livre tract, alors vous ne prêchez pas que les convaincus.
Ben alors formidable, c'est que ça fonctionne. Mais bon, c'est un écueil que j'ai pas eu à aucun moment en fait depuis le début. Mais parce que je pense que c'est parce que j'ai plein d'amis aussi bien à gauche, à droite, au centre, des gens. Et quand j'écris, je m'adresse à tout le monde. Je veux pouvoir, enfin, être capable de tenir le même discours devant chacun d'entre eux, quoi. Alors je travaille ça. C'est-à-dire que moi, dans la vraie vie, je m'emporte. Je suis beaucoup plus politique que dans mes livres. Je m'emporte. Quand je regarde la télé, je m'énerve pour un rien. Et en fait, quand j'écris, ben, je me relis, tout simplement. Et ça calme.
À vous écouter et à vous lire, en fait, je trouve que ça raconte une intégrité. Ce mot-là non plus n'est pas dans le livre.
Ben non, je ne veux pas parler de... Enfin,
non, évidemment, mais, voilà, mais c'est une idée aussi qui dépasse le livre.
Ouais.
Cette idée de comment on se tient dans la vie, quoi.
Ben, encore une fois, pour éviter le mot intégrité, dignité, qui sont des mots... que je veux bien, j'ai plaisir à voir que ça provoque ce sentiment-là. Mais moi, en tant qu'auteur, je vais choisir un mot beaucoup plus modeste, plus simple, qui est se tenir droit dans un monde qui ne me plaît pas énormément, en tout cas un monde économique qui ne me plaît pas, et que je ne pourrais pas changer, que j'aurais pas le temps, que j'aurais pas l'énergie, et que j'aurais pas les moyens de changer. L'essentiel, c'est de trouver un moyen de s'y tenir à peu près droit. Voilà. Et donc, dans ce monde du travail-là, j'aurais pas pu être plus riche, j'aurais pas pu être plus heureux et j'aurais pas pu être plus libre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de plainte, c'est pour ça que je ne me plains pas. C'est qu'au fond, malgré les privations, et... bon, il y a des moments de désespoir, évidemment. Quand j'ai eu faim, c'était dur, mais je n'ai jamais été vraiment malheureux, quoi.
On va manger, peut-être, hein?
Ouais, bon, on va. Je veux juste qu'on écoute le tube et puis après on mange.
Je vais réchauffer.
D'accord.
Un peu de vin blanc à table.
Allez.
Enfin, elle est ouverte, hein, mais c'est le vin qui a servi à la sauce. On va en boire, quoi. Mais il est bio. Donc même s'il est mauvais, il ne fera pas de mal. J'adore cette phrase. Allez.
On m'a donné le vin, je n'ai pas choisi. Il est bio, même s'il est mauvais, il ne fera pas de mal. Voilà. On écoute ?
Oui.
Voici Supersonic, morceau du groupe Oasis, choisi par Franck Courtès, écrivain.
Sa voix, il me fait un peu dégonder ce mec. J'aime pas les mecs arrogants. Mais Liam Gallagher, j'oscille entre mid et net parce que je le trouve beau. Et je deviens, je sais pas, j'ai une poussée de testostérone.
Ou d'oestrogène, allez savoir.
Voilà, les deux. En plus, il m'émeut parce que. Tout le monde se foutait un petit peu de sa tête. Tout le monde pensait que Noël, c'était...
Son frère.
Noël, son frère, était vraiment le type intelligent qui compose, qui... On préférait interviewer Noël que Liam, j'imagine. Mais le vrai romantique, le vrai tendre, le mec vraiment blessé, mélancolique, hein, c'est Liam, quoi. Ses chansons solo, et même les chansons qu'il a composées pour Oasis sont d'une beauté. Moi, c'est mon préf. J'ai 16 ans d'un coup. You need to be yourself. You can't be no one else. I know a girl called Elsa. She's into apple salsa. She sniffs it through a cane on a supersonic train. And she makes me laugh. I got her autograph. With the doctor on a hill. J'ai envie de déconner, j'ai envie de partir en vrille, j'ai envie de boire.
Ça vous est arrivé? Vous avez déconné? Vous êtes parti en vrille?
Oui, oui, je suis parti très loin en vrille. Oui, oui. Alcool, drogue, dès que l'occasion se présente. Je suis capable. Alors que je suis un mec très sain, très sportif. Mais si je rencontre quelqu'un qui excite quelque chose en moi, que je passe mon temps à endormir et à apaiser, alors je pars complètement dans des extrêmes. Ouais. Enfin, ça va, hein, je deviens pas méchant. Hein. C'est juste que j'ai plus de limites, quoi.
Alors que là, avoir ici votre maison, votre bureau, où il y a un ordinateur, une petite coupelle, des bouchons d'oreilles, et c'est tout. Ça a à voir, on a l'impression quand même que l'écriture a à voir avec l'ascétisme.
Le travail de se mettre au bureau a à voir avec l'ascétisme. Comme je disais, je fais le ménage avant, j'ai besoin d'une rigueur. Mais l'écriture elle-même, pas du tout. L'écriture est très rock'n'roll. En réalité, quand on est dans ces personnages, on n'est plus du tout. C'est mon corps qui devient ascète quand j'écris, qui a besoin de calme, qui se bouche les oreilles. Mais à l'intérieur, c'est au contraire, c'est pour libérer, dans par l'imaginaire, un maximum de choses. Surtout quand on passe d'un personnage à un autre, d'une scène à une autre. J'ai l'impression que j'écris sous hypnose. Donc, en fait, quand je ressors d'une séance d'écriture, je suis très, très déboussolé, presque toujours fatigué, parce que justement, je n'ai pas été du tout sage pendant l'écriture.
Il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, c'est une séance photo.
Oui, oui. Si c'est pas moi qui prends la photo, ça va.
Alors là, c'est une séance amateur, hein, puisque c'est moi qui la prends.
Et donc, on est obligé de grimacer quand on fait des photos.
C'est ce que j'ai fait?
Tout le monde.
Ah ouais? Non, mais en plus, là, j'ai dû prendre un contre-jour, à mon avis. Enfin,
Y a des chances.
Ouais, c'est pas grave. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte.
Bah, elle est très bien, non? Bon, je me marre, quoi. C'est très bien. Non, ce que je déteste, c'est quand je souris pour avoir l'air malin.
Ah bon?
J'arrive pas à être naturel en photo. Donc je souris, parce que je sais que sinon, on me dit que je fais la gueule. Non, là, je me marre pour de vrai, je suis content. C'est sincère.
Ah ben merci.
Et merci à vous.
On y va?
On y va.
C'est par une marche, derrière la maison et à travers champs, que se termine cette rencontre avec l'écrivain Franck Courtès.
Il y a du zèf, hein.
Quand vous courez, c'est ici que vous courez?
Oui, ici, un peu partout, mais ici beaucoup, oui.
Il y a un lien entre le fait de faire la course à pied et d'écrire, sachant que votre premier livre s'intitulait « Autorisation de pratiquer la course à pied ».
Oui, peut-être la patience et puis le but, l'envie d'arriver à la fin. Quand on court, on a un objectif. Il faut gérer tout le temps, toute la course, son souffle, ses muscles, son mental.
Il y a une idée d'endurance.
Et une idée d'endurance, oui, et de progression.
Et on progresse quand on écrit?
Oui, bien sûr. Ce qui est très difficile à faire, je pense, c'est continuer à s'épurer, quoi, alléger au maximum, tout en gardant la force et la puissance. Ça fait penser un peu au corps de fond. Hein. Il y a un truc comme ça dans la littérature. Il faut dégraisser, quoi, conserver l'attention tout le long, quoi. Enfin, donner envie aux gens de nous lire, de tourner la page. Quel que soit le sujet, même un sujet qui a l'air assez ennuyeux, comme faire des petits boulots, par exemple. C'est trop beau, non?
Ouais.
Enfin, c'est une image d'Épinal, hein, mais j'ai tellement peur qu'elle disparaisse.
À pied d'œuvre, de Franck Courtès, apparu chez Gallimard, et le livre est en lice pour le prix Fémina. Je continue à vous parler de livres parce que j'ai l'honneur d'être la marraine du prix BD Fnac France Inter, et vous pouvez faire partie du jury de ce prix. Pour ça, il suffit de déposer votre candidature sur le site prixbdfnacfranceinter.com, tout attaché en minuscule comme d'hab, prixbdfnacfranceinter.com. Vous avez jusque mardi prochain, 10 octobre, et 30 d'entre vous seront retenus pour participer.